Vous êtes dans le salon privé jusqu'à 23h. Merci de votre fidélité. Allez, Omi, c'est notre invité ce soir. Allez, 2019, 40 ans, CASAF.
Mm-hmm. C'est bien. Hein?
C'est bien. Hein? Uh-huh. Ouais, ça ne nous rajeunit pas non plus. Hein?
Oh, moi, je suis jeune, moi. quelqu'un m'a dit récemment, pourquoi tu as pas changé? Je dis, j'ai fait que travailler, j'ai pas eu le temps de vieillir. Non, mais quand tu parles de 40 ans de CASAF, moi, je pense tout de suite à Foudy Marshall. Je pense à Séverin, enfin toute la bande. C'était quand même. C'est la première fois qu'ils sont venus chez Jojo avec la band. Tu sais bien ce que Jojo avait dit à propos de Jacob.
Je me souviens pas.
Non, c'était non, c'est bien. Je me souviens du concert, le premier concert du Zénith en 86, où il y avait qu'un seul journaliste dans la pièce, c'était moi.
Et avec un animateur, c'était moi.
Voilà, tu vois. Et puis nous sommes là aujourd'hui, encore 40 ans après.
J'ai été piégé, on m'a mis devant un micro, on m'a dit « tu présentes le concert ».
Oui.
Et je n'étais pas venu pour ça, je n'avais pas de vêtements pour. Et on m'a amené chez le tailleur de CASAF, qui m'a plus ou moins habillé. Bref, ça c'est des détails, ça c'est un coup de mon ami Jean-Claude Andrassé.
Ah ouais, c'est bon coup comme ça. Non mais il y a des moments avec... Mais bon, allez, je t'écoute. Non,
vas-y.
Non, des moments comme ça qui sont précieux, c'est-à-dire que quand on a vécu cela, on ne sort pas indemne en réalité. J'ai d'autres souvenirs. Le souvenir que j'ai essayé, par exemple, à propos de ce concert de 86, c'est de rentrer en Martinique et de poser mon papier. Et le papier, j'avais fait. Là, je suis vraiment très ému en racontant ça, c'est que je vais être titré, je crois, le Zouk, c'est ce médicament. Je suis malade, je suis comme ça. Enfin, je sais plus. Bon. Et le samedi matin, à 10h, il y a Henri Mangatin, qui est le directeur de France Antilles, qui m'appelle et qui me dit « Viens, de venir. » Donc je vais à France Antilles et Henri me dit « Mais Alain, pourquoi tu m'as pas dit ?» Il m'engueule, il me dit « Pourquoi tu m'as pas dit ?» Je dis « Tu m'as dit quoi ?»« Mais écoute, il n'y a plus un seul France Antilles en vente. » Et les gens achetaient des France Antilles par 5, par 6, par 10 pour envoyer en France pour leur famille. Alors je le regarde, je dis, mais vous avez fait quoi? Il me dit, on est en train de retirer de France Antilles. Et c'est le papier que j'avais fait, c'est le concert de CASAF au Zénith. Et c'est comme ça qu'on a créé après le supplément télé du samedi, parce que j'avais déjà la page littéraire du vendredi, enfin bon, avec Edouard Jacques Gustave. Donc ils ont créé là. Et Udigor et la Batalie pourra témoigner, parce qu'il était là aussi à ce moment-là déjà. Et on a créé ce supplément-là, et les gens ont commencé à faire le lien entre la diaspora, enfin entre guillemets, enfin, qui était en Europe, et puis nous. Mais avant CASAF, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de journaux. Enfin, les gens envoyaient une coupure de presse parce qu'un tel était mort, Timoris, quand il est mort. Bon, bref, mais il n'y avait pas cette espèce d'engouement où il y avait un truc avec des journalistes qui écrivaient de France, qui envoyaient. Donc, c'était extraordinaire.
Mais c'est ton goût, ton bon goût et ta grande sensibilité qui ont œuvré à cette époque.
J'en sais rien, pourquoi tu dis ça?
Parce que j'en suis sûr.
J'en sais rien. Non, je faisais ce qui devait être fait. Tu sais, quand je chante en Martinique en 82, on a créé à l'époque un journal qui s'appelait Écho des Antilles. On était 12 actionnaires qui avaient mis nos billes. On s'est fait eu, comme on dit. Vraiment, méchamment.
Mais, c'était avec Roland Lancher?
Ouais, exactement. Et c'était une expérience. Donc on a commencé à lancer ce journal. Et après, c'est Daniel Compère qui m'a demandé de la rencontre avec Henri Mangata, qui voulait me rencontrer, pour demander de travailler avec lui. Parce que paraît que j'avais une plume. Bon, je ne sais pas si j'avais une plume. En tout cas, je sais que j'ai passé des moments extraordinaires avec Henri. Je me souviens de... Henri, en souvenir d'Henri Mangata, j'ai trois choses. Il y a un article que j'ai fait à l'époque sur une voiture, sur une BMW. J'avais titré la BMW 725i. Deux points, c'est fou. Et Cresson m'avait appelé le lundi pour me dire qu'il n'y avait plus, il ne restait plus. Parce que mon papier avait marqué, parce que je racontais l'histoire. Et Henri voulait que je fasse le papier, je disais non, je ne fais pas ça, moi je suis un artiste. Je suis un artiste, je ne suis pas vendeur de voiture. Et j'ai fait le papier en racontant comment ça s'était passé, comment Cresson était vendu. Cresson m'a dit, tu es la mère. Enfin, tout ça, c'est très drôle. Et puis un autre papier aussi que j'avais fait avec beaucoup de plaisir, qui n'était pas du tout mon secteur, qui était. Papier sur Madeleine de Grand-Maison, sur ce projet qu'elle avait à Jupa Bouillon. J'avais fait ça avec passion, parce que cette dame-là, elle me fascine. Je trouve que y a les femmes politiques en Martinique ne sont pas très nombreuses, mais celles qui sont, quel que soit le bord politique, elles sont très prenantes, elles sont envoûtantes, voilà le mot qui convient. Elles sont envoûtantes. J'ai des souvenirs comme ça. Ça remonte comme toi, tu parles de questions qui passent de droite à gauche, moi je parle de droite à gauche également.
Mais tu as raison. Ce week-end en Guadeloupe avec Henri Debs.
Ah oui.
Avec Momo et moi.
Oui. Henri Debs m'a demandé. J'ai fait deux choses avec lui. J'ai fait une chanson. Il a enregistré une chanson, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas amené un de mes textes. Et j'ai fait une pochette de disque avec Henri Debs. Mais Henri, c'était. C'était un sacré bonhomme, c'était un monsieur. Hein. Ouais. C'était la classe.
La classe.
Avec. Ouais. Bon, allez, il n'est plus là. Voilà.
Ça ressemble à une émission d'anciens combattants.
Pas du tout. Non, mais tu sais, parler des gens qui sont morts.
Non, c'est pas par rapport à Henri qui est mort.
Non. Mais parler des gens qui sont partis, ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est nous qui les créons immortels. C'est que le fait qu'on parle d'eux, de leur tombe, de leur machin, là où ils sont, ils doivent frétiller du jour en disant « Ouais, on parle de moi ». Mais en même temps, on les rend immortels. C'est que si on n'a pas, nous, la reconnaissance des gens qui nous ont servi, qui nous ont apporté de leur capacité intellectuelle, capacité financière, pour que s'agisse d'enregistrer des disques, ça sert à rien. Parler des vivants aussi, parler de Dessin Prix, qui est un immense musicien martiniquais, ou de Cali, ça aussi c'est important.
Des Dessin Prix qui était mon invité la semaine dernière dans salon privé.
Eh bien, tu vois, tu as de la chance. Moi, il n'est pas venu me voir.
Ah. Quel est ton prochain choix?
C'est un peu compliqué. On a parlé de la Jordanie. On a enregistré avec mon collaborateur à l'époque, il s'appelle Charles-Henri Gros, un groupe de musique circassienne. C'est-à-dire, ce sont des Russes qui ont quitté leur pays, poursuivis pour les raisons, et qui sont arrivés en Palestine, qui sont arrivés après en Jordanie, qui se sont installés. Donc il y a une communauté russophone, circassienne, assez importante. Et on a produit ce disque-là avec Amuna Mundi et Ad Vitam Aeternam, parce que ça ressemblait, moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la musique de Mouna. Donc on va écouter la musique circassienne maintenant. Thank you.
Salon Privé, 21h-23h, avec Ignace, sur Fusion.
Vous êtes dans Salon Privé ce soir, nous recevons Alain Aumis. Alain, on revient bien en arrière, à la préfecture, tu étais très proche de Polo Rosine.
Oui, très bien. Polo, je l'avais rencontré la première fois quand, en lancement de l'École des Antilles, je voulais faire, on a trouvé un logo qui était fait par le dessinateur, dont j'ai oublié le nom, mais qui était un colibri. Et Polo, je lui ai demandé de créer la musique qui allait faire comme service de support à la publicité qu'on allait faire pour le journal. Et puis, je suis arrivé à son bureau, il m'a écouté, il m'a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire, etc. Mais finalement, moi, j'étais venu faire une mission particulière ici en Martinique, et la mission était terminée, je devais repartir. Et le préfet de l'époque, c'était Jean Chevance, m'a demandé de rester. Parce qu'il y a quelque chose pour moi de me demander à faire, etc. Enfin, bref, ça, c'était pas l'importance. Donc Polo, on est resté très très bon copain avec Gallion, Christian Gallion. Et on est devenu très très proche. Très 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 proche. Très 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 proche. C'est vraiment mon meilleur ami. Et souvent, on allait écouter de la musique ensemble. Il allait jouer, j'allais le voir. Il venait chez moi, j'allais chez lui. On était vraiment très 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 proche. Et puis quand il est mort, ça m'a complètement dévasté. Je crois que c'est la personne qui m'a... Ça m'a fait mal, vraiment. Et quand je venais à Martinique pendant mes tribulations extérieures, je m'arrêtais toujours au mont de verre sous sa tombe pour lui dire bonjour, salut mec, voilà.
Il y a Malavoie avec Polo et Malavoie après Polo. C'est pas le même groupe?
C'est pas du tout le même groupe, non. c'est pas du tout le même groupe. Mais tu sais, je suis resté sur Jouvet. J'ai pleuré la mort de Polo, j'ai pas honte de le dire. Pendant 2 ans, j'ai pleuré tous les jours. Parce que c'était vraiment mon ami. Tu sais, c'est comme si j'ai perdu mon papa, mon frère, moi. C'était quelqu'un qui... Sa famille peut témoigner, effectivement, de l'affection que nous avions l'un pour l'autre. On était vraiment très, très, très bons amis. Donc après, Malavoie, une nouvelle formule, c'est... Pour moi, c'est pas la même chose. Même si, il y a de superbes choses. Enfin, des chansons avec Pipo, avec Ralph, avec les nouveaux musiciens, nouveaux choristes, nouveaux violonistes, nouveaux. Oui, il y a toujours la basket de Denis Dantin, il y a toujours les percussions de Nicole Bernard. Le piano de José était avant, donc il est là maintenant, et c'est bien. Il y a un disque de José que j'adore littéralement, c'est le disque qu'il a fait avec Bougainville, qui s'appelait... je ne sais plus comment il s'appelle ce disque. Il y a un morceau de batterie que j'adore. Ça va me revenir. Mais ce n'est pas la même chose.
C'est les compositions?
Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que je n'ai pas d'attention particulière. J'ai d'autres musiques dans ma tête. C'est-à-dire que quand je veux... Tu vois, il y a un morceau que je vais mettre tout à l'heure qui fait penser à ma fille. Tu vois, parce qu'on parlait de famille. Pour lui, c'est ma famille. Ma fille était venue me voir en Jordanie, et on a traversé le désert ensemble, dans une petite voiture, ensemble. Et ma fille était venue me voir parce qu'elle avait besoin de réponses à la question qu'elle se posait par rapport à elle-même, etc., etc., etc. Bon, bref. Et j'ai mis un morceau pour elle dans la voiture, ce morceau de Roy Hargrove, Mambo for Roy, qu'on va écouter tout à l'heure. Et on a écouté ce morceau-là 10 000 fois, sur la distance qu'on a fait, 345 km. Et bah, la voix, quand je veux... retrouver une ambiance de plaisir total, de l'émotion. J'écoute Jouvet ou j'écoute Martinique, par exemple, de l'ancienne formule de Malavoie.
Avec les cuivres.
Donc, il y a tout ça. J'ai chanté avec eux, je chantais à Baba, je faisais des chœurs avec Baba, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la relation n'est pas la même. Moi, j'étais ami. Je faisais partie du groupe, pratiquement, à la limite. On est partis au Canada ensemble. Je les ai accompagnés au Canada. Je les ai aidés pour le travail avec Air France, pour le sponsoring d'Air France. Henri Vallée était aussi quelqu'un de très proche. Donc, c'est pas la même chose.
Tu vas voir des concerts en Martinique?
Je suis allé voir cet homme de concert, oui. Je suis allé voir un concert qui m'a beaucoup interpellé. D'ailleurs, je voulais qu'on refasse un concert qui avait lieu à l'Atrium. Avec Manu Césaire, Manuel, et c'est l'acoustique. Et ça m'avait fasciné. C'est qu'il n'y avait pas un seul micro, il n'y avait pas un seul amplificateur, et les musiciens jouaient acoustique pure, 100% pure. C'était un vrai délice, c'est un vrai délice. C'est un vrai délice. D'entendre sans réverb, sans bruit, sans boîte à rythme, sans machin. Mais qui t'élève jouer les percussions avec une légèreté, c'était vraiment extraordinaire.
Étiez-vous à l'inauguration de la Palooza Arena ?
Non, j'étais en train de peindre ce jour-là. Et ça m'est passé, comme je me suis rendu compte qu'il y avait cela, il était 5 heures d'après-midi, je n'ai pas monté me mettre dans la boue ou je ne sais pas quoi, non.
Il n'y a pas de boue.
Il n'y a pas de boue, mais c'est bien. Mais...
D'autant qu'il n'a pas plu.
Non, parce que je me souviens d'un concert dans la zone avec My Head Faithful, qui était organisé par José Ayotte à l'époque, il y a un an, où il y avait beaucoup de boue. Donc ça est resté.
Autre morceau ?
Mais Mambo for Wife, par exemple.
Par exemple ?
Par exemple, Mambo for Wife.
salon privé.
Le mélomane que vous êtes, joue-t-il d'un instrument ?
Oui, j'ai une salle de musique chez moi, complète, avec piano, clarinette, saxophone, guitare, batterie, tout.
Quel est ton instrument de prédilection ?
La télécommande.
Tout ça.
La télécommande, ma chaîne EFI. Non, sérieusement, je joue. Je joue assez bien des percussions, j'ai des percussions électroniques. Ça fait longtemps que je joue. J'avais un groupe à l'époque. Enfin, j'avais un
groupe. T'as pas touché au violon, non ?
Non, c'est mon grand-père qui était fabricant de violon. mon grand-père paternel qui était fabricant de violon. Et non, j'avais un groupe à l'époque des années 70 qui s'appelait Patchwork. On s'est retrouvés, les musiciens se sont retrouvés là. On a fait un disque qui a très bien marché. Très, très bien marché même. C'est moi qui étais le producteur, donc je peux raconter que ça a très bien marché. Et ça s'appelait Patchwork, on faisait du jazz à l'époque. C'était pas mal. Pam, pam. Je chantais aussi. Je faisais des percussions, des congas. Il y a un film, tu vois, sur YouTube, tu vois, regarde, tu vas voir. Et puis la batterie. Donc je joue batterie. Puis je joue un peu de clarinette. J'ai un prof extraordinaire, Alec Levinsky, qui arrive à me faire sortir du son de ce morceau de bois-là. C'est quand même pas mal, ouais.
Et puis peintre.
Donc je peins, j'écris aussi, mais on veut que j'écrive mes mémoires, mais j'ai pas envie.
Tu nous as promis un livre de tes mémoires.
J'ai pas promis ça. C'est vous qui avez décidé que je devais écrire un livre de mémoires.
Non, tu vas le faire.
Ah bon, c'est un autre chef.
C'est un autre.
D'accord, enregistré.
Alors revenons à la peinture.
Ben, la peinture, c'est quand je suis. Quand j'ai commencé à peindre, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, toujours en préfecture, il y a beaucoup de choses qui sont passées en préfecture. Le préfet d'époque m'avait demandé d'organiser une exposition de Louis Laouché. Et dans la salle Félix Ébroué, plutôt en bas. Et pour préparer l'exposition, je suis allé chez Laouché, et puis je lui ai dit, naïvement, un peu bête, quoi, parce que quand tu es un bonhomme comme ça, tu es un peu bêta, quoi, parce que tu dis, c'est un grand monsieur. Et puis moi, j'étais un tout petit monsieur. Et je lui dis, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et il me dit, vous peignez ? Je lui dis, non, je ne peins pas, mais vous devriez peindre. Je lui dis, non, mais bon, j'aime bien, mais ce n'est pas parce que j'aime voir ce que vous faites que je vous ai dessus nécessairement. Et puis Louis m'a dit, attendez, bougez pas. Il est allé chercher 3 tubes de peinture. Ils sont dans mon coffre-fort, ceux-là. Ces tubes de peinture-là. Vraiment, ça fait longtemps, 86. Et il m'a donné ça, il m'a dit, rentrez chez vous et puis faites quelque chose avec. Donc je suis entré chez moi, j'ai fait quelque chose avec. Et le lendemain, il est passé chez moi. Je lui ai dit où j'habitais. Il est venu voir. Il me dit, vous avez fait quoi ? Donc, je lui ai montré. Il m'a regardé avec un air dubitatif en disant, bon, d'accord, ok. Et j'étais vexé comme un pou. Donc, je lui ai dit, ah bon, c'est comme ça ? Donc, je me suis mis à bosser, mais totalement tout seul. Bosser. Et puis, j'ai bossé. Et puis, aujourd'hui, je maîtrise assez bien les techniques. Je fabrique mes couleurs moi-même. J'ai des pigments que j'ai ramenés de Jordanie qui me servent à faire mes couleurs. Donc, je fais mes couleurs moi-même. Je prépare mes matières moi-même. Je prépare tout moi-même. Je suis devenu un expert. Je restaure, je fais tout. Donc, je peins. Et puis ensuite, je suis entouré, depuis que je suis rentré en Martinique, alors quand j'étais en poste au Nigeria, je rencontre des artistes nigériens. J'ai Twin 77, qui est un immense artiste, ou bien Alan Atsui, dont tout le monde parle, ou bien Kenny, qui est un sculpteur, magnifique sculpteur, qui est maintenant connu internationalement. Donc, j'étais entouré de toujours d'artistes chez moi, qui étaient invités, que je les recevais, etc. etc. Donc, et puis, on a beaucoup travaillé ensemble, donc je travaillais avec Zaïstien, avec Ralph Allen en particulier, et puis à Saint-Domingue avec Iris Pérez-Romero, qui est une immense, immense, immense artiste, ou encore Marcos Lorarid, et j'ai gardé le contact comme ça. Il retourne à Martinique, il y a un nouveau cercle que j'ai rencontré au fil des expositions avec Raymond Medelis, qui est un immense artiste, avec Ricardo Zier-Lafontaine. Et puis là, j'ai rencontré récemment Jean-Marc Anne qui vient de la Guadeloupe. D'ailleurs, on fait quelque chose ensemble tous les quatre plutôt. Et donc, c'est l'environnement qui m'interpelle, parce qu'à l'époque, quand j'étais en préfecture, j'exposais Laouché, Ourvelas, Mundaraï, Brawler, etc. etc. Enfin, pas mal de gens, l'Atelier 45. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Ta peinture se situe dans quel mouvement si tu es...
Ben écoute, là je teste ce qu'on appelle un impressionniste abstrait. Aujourd'hui, je fais des rats de cabane. Je fais des lits, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me situe.
Tu te vends ?
Je ne me vends pas, je ne sais pas faire ça. J'ai une amie qui me dit que je suis très doué pour tout, mais sauf pour ça. Je sais pas me vendre. C'est pas mon métier, je sais pas. Mon métier, c'est la diplomatie. Donc,
Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un projet d'exposition.
Oui, j'ai un projet d'exposition, mais ça, je garderai ça.
La date ?
Quelque part.
Le lieu ?
Quelque part.
Tu es venu ici pour parler.
Ben oui, mais... Tu n'as pas les moyens pour faire parler. Non, j'ai un projet rigolo, mais c'est, il faut que je travaille dessus un petit peu plus. Mais pas pour maintenant, c'est pour après juillet, par là. Là, il y a eu un projet bientôt, là, dans les semaines qui viennent, dans les deux mois qui viennent.
Mais il y a eu une exposition collective.
Oui, avec le...
Rachel Cher.
Il y a eu Cargo, qui a été fait par... Curaté par Patricia Donatien. Et puis, une autre exposition que j'ai faite avec le club e-service,
oui,
au bénéfice des enfants de la Dominique. J'étais venu ici en parler, d'ailleurs. Bon, ça, c'était des choses qui sont pour faire plaisir, pour rendre service, que tu donnes quelque chose. Et tu reçois rien en échange, mais c'est pas grave. Et, non, mais Cargo, c'était très bien. Cargo, avec Patricia Donatien, c'était du sérieux. On avait beaucoup de mal à monter les stands. Mais à l'arrivée, on peut se sacrifier. C'est-à-dire que si on n'a pas d'orgueil, et qu'on accepte de retirer les manches et puis s'y mettre, on y arrive. Donc, j'aime bien rencontrer les autres.
Ça communique beaucoup entre vous
Tout le temps.
Plasticien, tout le temps.
Tout le temps, tout le temps. Bon, j'ai Agnès Bolla tout le temps au téléphone, Ricardo aussi, Raymond Medelis, par exemple, le petit groupe qu'on forme, là, les quatre mousquetaires, les trois mousquetaires plutôt, parce que c'est Jean-Marc Anne qui est le troisième, qui est le quatrième, qui est guadeloupéen. Et on travaille beaucoup ensemble.
Les avis des uns comptent beaucoup pour les autres.
Ah oui, mais heureusement, parce que c'est un mot que j'aime pas trop, c'est le règne de la bienveillance, c'est ça. J'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais on est là, on se dit des choses, on dit tiens, si quelque chose ne me plaît pas, on me dit bon, ça me plaît pas, j'aime pas ça, bon, voilà, point. Donc je le prends. Parce que j'ai pas la science infuse, je suis pas le meilleur des meilleurs. Il y a qu'à voir le travail de Basquiat. Basquiat travaillait avec de la poussière et avec des personnages complètement mantibulés, et pourtant ça se vend. Donc. Le beau, tout est beau. Moi, je dis toujours que tout est beau. Même une crotte de chien est belle.
Tu n'en es pas encore là, non ?
Non, mais je dis que tout est beau. Non, mais je pense que tout est beau. Parce que je pense que c'est le regard que nous avons, nous, êtres humains, sur les choses, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, des principes, machin, etc., petits bourgeois, hein, qui font qu'on prend des jugements sur les choses. Un carton vide par terre, c'est beau.
Tes petits-enfants, tu nous en as parlé tout à l'heure, t'aimerais qu'ils soient plasticiens, musiciens ?
Ils sont les deux, en général. Parce que chez moi, il y a un piano, mon petit-fils, le dernier, il arrive, il enlève le truc, puis il allume et puis il joue. Le plus grand, il prend un tambour et puis il joue. Et ils jouent ensemble. Il y a un mélodica, tu sais, tu mets dans la bouche, tu sais. Donc le petit prend le mélodica, il joue avec deux mains, et puis l'autre joue au tambour. J'ai des films, et c'est très drôle. Et puis ils peignent aussi, ils font tout. Ma maison, c'est une maison heureuse. Et des jeux d'enfants, enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien ça.
Et moi, j'aime bien la musique. Et j'aime beaucoup celle que tu aimes.
Ah oui, alors, dans celle que j'aime, il y a un disque j'ai fait une exposition chez moi, il y a quelques années, entre amis. Et il y a des amis musiciens qui sont venus jouer. Et Manuel Césaire, Alex Bernard, Alain Dracius, Mano Césaire. Et c'était vraiment bien. Je t'enverrai des disques, je t'enverrai des liens pour voir ce que c'était. Et la musique de Mano Césaire m'interpelle vraiment. C'est-à-dire que il y a une école qui a été baptisée à son nom.
Son nom, oui.
À son nom. Tout ça très bien. Comme l'école à Saint-Pierre de Victor Anicet, tout ça très bien aussi. Je pense qu'il faut honorer les gens de leur vivant. Mon beau-père Michel Guyot, Yann Ourou qui a son nom à Mout, c'est tout ça très bien. Mais Mano. J'ai emmené à Mano un violon fabriqué par mon grand-père, que j'avais fait réparer, et Mano, il a joué dessus. Il a fait chanter, il m'a fait pleurer. Et le disque qu'il a fait avec... Il y a un morceau qui s'appelle Délivrande. Délivrance. C'est un des morceaux clés. C'est-à-dire que tout le disque est très bien, mais c'est pas le morceau lui-même, c'est le nom du morceau, la Délivrance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on doit ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes et laisser la vie entrer en soi. Et quand je suis arrivé à Martinique, il m'a apporté ce disque-là, j'ai trouvé que c'était le morceau, le disque qu'il fallait pour me dire de rentrer chez moi. Que j'étais délivré de toute la charge émotionnelle des pays dans lesquels j'avais vécu. Parce qu'à part les pays dans lesquels j'ai vécu, j'ai aussi beaucoup voyagé, parce que comme j'étais au protocole, j'ai voyagé avec beaucoup avec Jacques Chirac, avec Raffarin, avec Villepin, avec Fillon, enfin bon, j'étais premier ministre, mais j'ai beaucoup voyagé. J'étais partout, en Inde, en Chine, en blablabla. Il n'y a pas un pays que je ne connais pas. Si, à part le Japon, je ne connais pas du tout, mais je l'ai partout. Et quand je rentre chez moi, je rentre avec la tête sous l'eau, tu vois, la tête baissée, parce que je suis un peu honteux d'être parti si longtemps. Et puis ce disque-là m'a délivré.
Alors on écoute quoi ? Délivrance ?
Délivrance, voilà. Thank you.
Alain Omis, notre invité ce soir dans Salon Privé. Nous sommes dans Salon Privé jusqu'à 23h. Vous êtes sur Radio Fusion 95.3 et 103.2. Nous sommes Alain Omis et moi dans le studio Georges Debs. Alain Omis est installé dans le grand canapé noir. C'est la place de l'invité. Alain a beaucoup voyagé.
C'est plus que ça. Je me souviens, à un moment même, je me demandais à quel point j'en étais. J'ai fait un voyage pour te faire rire, c'est... Parce que quand j'étais secrétaire général adjoint de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire que j'étais la personne qui gérait toute la présidence française de l'Union européenne, en France et dans le monde. Donc j'avais un secrétaire général qui était un politique, qui était un ambassadeur, qui s'appelait Claude Blanche-Maison, et j'étais son adjoint, et donc je gérais toute la présidence. Et je me souviens un jour, le chef du protocole, qui était Jean-Pierre Zadourian, m'appelle, puis il me dit « Alain, je dois aller en Chine, parce qu'il y a un truc que le président va aller... » C'était Sarkozy à l'époque qui était président. Aller en Chine, et bon, est-ce que vous voulez venir avec moi? Alors, je dis, vous allez faire quoi? Il me dit, j'ai besoin de vous. Il me dit, ah bon, très bien, bon. Écoutez, je regarde mon agenda, je dis, oui, je peux. Donc, on part, donc je raconte pas les détails, parce que, arrivé à l'aéroport, l'avion que devait prendre, les sièges qu'on avait réservés n'étaient plus réservés, enfin, bon, bref. Mmh. Enfin, finalement, je suis intervenu, et on s'est pu s'arranger. Il est arrivé en Chine, à Pékin, on a passé une nuit. C'est authentique, hein. Le lendemain, on avait rendez-vous avec le protocole chinois sur un dossier particulier. Je ne dirais pas lequel. Bon. Et le protocole chinois disait non, non, non. Et à un moment, le chef du protocole chinois me regarde, il me voit, et puis il se dit, je connais ce mec, dans sa tête. Et puis, il interroge cette personne à côté de lui, et qui confirme effectivement que c'est le type en question, il le connaît. Et à un moment, il se retourne, et puis il nous regarde, et puis il dit, il fait ça, il ouvre les bras, et puis il dit, oui, vous savez ce que vous voulez. Et c'était étonnant, parce que le type s'est rappelé que j'avais organisé la visite d'État en France, du président Jintao, et qu'à l'époque, il était adjoint en chef du protocole, et que c'est moi qui avais géré toute la visite, et que j'avais jamais dit non à ce qu'il voulait. Donc du coup, il a dit oui à ce que nous voulions, par réciprocité. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la diplomatie. Mais ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est que on est parti le lundi, on est arrivé le mardi, et on a pris l'avion après, donc après la réunion, on a repris l'avion pour rentrer sur Paris, et on est arrivé le mardi à Paris. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir, arriver le mercredi, avec un décalage horaire, les 12h, on est arrivé le mardi. Et je me souviens qu'arrivé à l'aéroport, c'était à Roissy, on était un peu zombies, parce qu'on avait fait un aller-retour en 3 jours, qui faisait 2. Donc, le chef du protocole était convoqué, était allé à l'Élysée voir le président. Et mon chauffeur venait me chercher. Et je lui ai dit de me déposer à une station de métro. Et je me suis assis à la station de métro pendant 40 minutes, à essayer de me poser les pieds par terre en disant « Je suis encore, je suis sur terre encore, parce que j'étais complètement zombie. » Donc, ce métier-là de voyager, c'était un métier extraordinaire. Donc, quand on rentre ici et qu'on découvre son pays de manière différente, on se dit « Tiens, voilà, on se pose des questions. »
Mais d'être dans les hautes sphères comme ça et de côtoyer les présidents, ministres et tout ça, ça fait quoi?
Moi, je suis un peu iconoclaste. Tu veux une anecdote rigolote? C'est quand on a organisé le G8 à Évian, le président avait demandé que ce soit que deux personnes, Frédéric Billet, qui est le chef du protocole, et moi qui accueillions les chefs d'État à l'aéroport à Genève. Et donc, j'ai accueilli Bush. Jintao, Trang Tukyong, enfin tous les présidents possibles, Jinping, Poutine, etc., etc. Je les connaissais tous. Mais toujours en simplicité, avec ce grand sourire. Poutine, quand il me voyait, il me souriait. Bouteflika, quand il me voyait, il me faisait 4 bises. Les gens me connaissaient, parce que j'étais la seule personne un petit peu basanée, n'est-ce pas, dans ce milieu-là. Et puis, comme je prenais la vie du bon côté. Bon. Et puis, quand la réunion s'est terminée, Chirac. On reprend l'avion, et puis il me dit, alors Alain, comment ça a été? Et je prends mon air le plus désespéré, je dis, monsieur le président, je suis arrivé blanc, regardez comment je suis devenu. Parce que j'étais complètement noir, j'avais tout 40 degrés au soleil, sous le tarmac de Genève, j'avais complètement... Tout mon corps avait été transformé par la chaleur. Et je crois qu'il a éclaté de rire, il rit toujours.
Quel est le plus accessible des présidents ou autres personnalités que vous avez approchés?
Le plus accessible parmi les chefs d'État du monde entier ou de
France.
Français? Donc c'est Chirac, définitivement. Chirac, quand on s'est quitté en 2006, j'avais organisé le sommet France-Afrique à Cannes. Et il m'avait demandé quelque chose, de faire quelque chose que j'ai fait. Il avait assez bluffé de savoir que je pouvais faire ce genre de choses-là. Et il est venu me saluer. Il pleurait. Et je l'ai revu après à l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Il a traversé la salle pour venir m'embrasser. Mais m'embrasser, vraiment. Non, c'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme, vraiment. Bon, vraiment, c'est pas...
Le plus fermé de tous, lequel?
Tu sais, mythique, Sarko. J'ai rencontré Macron, très sympathique. Très sympathique, très souriant, très, très chaleureux, très... Très, vraiment très... Mais Chirac, oui. Sarko, non, Sarko... La première fois que je l'ai rencontré, ça s'est pas bien passé. Mais je ne vais pas raconter ça maintenant. Mais non. Non, Chirac.
Raconte, oui.
Non, Chirac. Non, vraiment.
Sarko, on veut savoir.
Mais non, ça n'a pas d'importance. Chirac était quelqu'un de... C'est quelqu'un qui était humain. Tu veux que je te raconte la vérité? Ça va être méchant. Hein.
Vas-y.
Quand le chef du protocole a voulu m'avoir... Il s'appelait Paul Poudade. J'étais reçu par un collègue, parce que c'est passé par la cooptation par un agent qui est Olivier Pénissier qui m'a reçu, et puis après, qui m'a reçu, après le chef adjoint, après l'adjoint chef, enfin, jusqu'au chef. Bon. Et à la fin, il me dit, bon, d'accord, c'est bien, bon, je vous prends avec moi. Et je lui ai dit, vous savez, le personnel ne va pas me prendre, ne va pas accepter que je parte, que je quitte la coordination géographique pour que j'aille chez vous. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et... Je dis, bon, on va voir. Donc, je suis rentré dans mon bureau, je fais mes affaires. Et il a demandé, par note, que je sois affecté à son service. Pas n'importe qui, quand même, chez du protocole. Et le chef du personnel à l'époque, je ne dirai pas le nom, a envoyé la note au directeur de la DGCID, la Direction Générale de la Coopération Internationale du Développement, pour lui dire, en lui disant, voilà, bah, c'est la note qui affecte M. Omis au protocole, mais vous n'êtes pas obligé de laisser partir. Sauf que le patron de la DGCID était quelqu'un de très sympathique, il m'aimait bien, donc il m'a montré. Donc, je suis parti faire mes affaires, j'avais une réunion chez le secrétaire général pour les instructions de l'ambassadeur, et je rencontre Poudade, et je lui dis qu'on ne me laissera pas partir. Et Poudade était allé voir Chirac directement. Il lui a dit, voilà ce qui se passe. Et Chirac a téléphoné, il a dit, je veux Omis dans le bureau de Poudade. Il est intervenu en disant, je veux. Tout ça, c'était anecdotique. C'est pas grave. Le président qui dit « caprice ». Mais Chirac était plus que ça. C'est-à-dire que quand je suis rentré au protocole, j'ai rencontré le chef, etc. Ben non, ils sont partis à Copenhague. Et arrivé à Copenhague, on m'a dit « vous restez à l'hôtel ». Et je comprends pas, parce que tu sais, tu vas travailler, tu dis « restez à l'hôtel ». Et puis le téléphone sonne, j'ai un portable, le téléphone sonne, on me dit, le président vient. Donc vous accueillez le président. Donc je suis devant l'hôtel, j'accueille le président qui me demande, il me fait le geste de se laver les mains. Bon, j'ai compris, il avait un gros pipi à faire. Et je lui montre des endroits où se trouvent les toilettes. Il va faire les toilettes, il vient, et puis il revient vers moi. Il pose ses deux mains sur mes épaules, puis il me dit, je suis très heureux que vous soyez avec moi. Tu vois là, je me maîtrise parce que... Généralement, je pleure quand je raconte ça. Parce que le sentiment d'être humain, d'être un être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu travailles à ce niveau-là, si tu veux, quand tu es à ce niveau-là, tu as des gens qui te reçoivent tel que tu es et qui ne demandent rien d'autre d'être que ce que tu es.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarko?
Non, Sarko a été... Il a pas été très sympa.
Mais encore.
Non, c'est rien contre moi. C'est-à-dire que le jour où il a su qu'il était candidat à la présidence et que Chirac a soutenu du bout de lèvres, il y avait la cérémonie pour Lucie Aubrac aux Invalides. Et c'est moi qui m'ai organisé la cérémonie. Et il est arrivé avec un de ses amis, qui était de mes amis en plus, très, un ami proche. Et moi, j'attendais pour le saluer, donner la main. Et en me donnant la main, il a poussé et il m'a cogné au plexus solaire. C'est-à-dire que la poignée de main était tellement vigoureuse qu'en fait, il me donnait un coup de poing. Et au moment où j'allais réagir, parce que là, Goumé, puis moi, hein, la personne qui était avec lui, David, m'a dit, Alain, je t'expliquais. Donc, je me suis calmé. Mais il est venu s'excuser après. Il est venu s'excuser après, mais j'ai trouvé ça un peu fort, parce que tu as un type, il savait qui j'étais, donc il m'avait vu mille fois. Donc, il savait exactement. En plus, j'ai arrangé des choses pour lui, enfin bref, tout ça. Bref. Et donc, c'était, j'ai pas aimé, voilà. Parce que j'ai eu mal. Physiquement, et puis mon honneur, enfin, mon orgueil, c'est que je suis là, j'organise un machin comme ça, et puis vous me recevez comme ça, non.
Allez, on va devoir se quitter, mais on ne va pas se quitter sans musique.
Alors, le dernier morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui est... Il y a un son, je crois que ça ne marche pas, de Brad Medlow. Donc, si vous écoutez Brad Medlow, les gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, allez sur YouTube, mettez son de Brad Medlow. C'est un morceau extraordinaire. Le dernier morceau, c'est un morceau d'un gamin qui s'appelle Thomas & Co, qui est une famille de musiciens. Le grand-père, c'est Jean-Claude Cadassu, chef d'orchestre. La maman, c'est Caroline Cadassu. Le beau-père, c'était Didier Lockwood, qui a écrit un morceau magnifique qui s'appelle Martinique. Et Thomas et David & Co sont venus jouer en Jordanie, avec leur mère, avec Caroline. Ils ont fait un solo, trio, donc un répertoire, un concert complet. Et j'essaie de les faire venir ici, mais bon, il y a encore du boulot à faire. Et ce gamin, j'ai pris le pianiste, parce que Thomas est pianiste et David est trompettiste. Donc j'ai choisi Thomas, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle I Love You Poggy, qui se termine par un morceau de Chopin. Mais tu vas voir que la liaison entre les deux morceaux, le morceau de jazz et le morceau de classique, montre que la musique est universelle, elle est une. Il n'y a pas de genre. L'homme est homme, la femme est femme, la musique est musique. Donc, et après, c'est une évolution, et c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que tu as l'explosion. Et ce gamin, il joue aussi avec un duo, avec une vibrationniste, qui est absolument extraordinaire. Je faisais ça en disant, bon, ça va plaire à Ignace, parce que ça fait penser au type de musique que tu passais à l'époque, en 89, c'était une musique un petit peu originale, parce que la musique ordinaire, il y a tellement.
Merci Alain, merci d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie. Merci. Des projets à court terme, là, ton exposition, l'exposition dont tu ne m'as pas dit assez.
Quoi, l'exposition? C'est pour après.
C'est pour après. Mais je te remercie
encore. Tout sera prévenu.
Merci. Tu reviendras?
D'abord, viens me voir à la maison. Je vais prendre un verre, je vais prendre un punch à la maison.
Bah ouais. Allez Alain, bonne fin de soirée à toi.
Bientôt, bah ouais.
À vous qui nous avez écoutés depuis 21h, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. On se retrouve lundi prochain à partir de 21h sur Fusion 95.3 et 103.2 dans Salon Privé. Bonne fin de nuit à vous, à la semaine prochaine.